Étude sur le chapitre 17 de la Genèse. Ce chapitre nous fait voir comment Dieu remédie à la faute d'Abraham. Et Abraham était âgé de 99 ans et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. » Ce passage a une signification d'une grande portée. Il est évident que lorsqu'Abraham accepta l'expédient de Saraï, il ne marchait pas devant la face du Dieu Tout-Puissant. La foi seule nous rend capable de vivre librement devant la face du Tout-Puissant, au lieu que l'incrédulité introduit toujours plus ou moins le moi, les circonstances, les causes secondaires et autres choses de cette nature, et nous prive ainsi de cette joie et de cette paix, de cette sérénité et de cette sainte indépendance qui sont le partage de celui qui s'appuie sur le bras du Tout-Puissant. Pensons-y bien. Dieu n'est pas pour nos âmes cette constante réalité qu'il devrait être ou qu'il serait pour nous si nous marchions avec une foi plus simple et dans une dépendance plus entière de lui. Marche devant ma face. La vraie puissance consiste à marcher devant la face du Dieu fort. Pour cela, il faut que le cœur ne soit occupé d'aucun autre objet que de Dieu lui-même. Si nous nous reposons sur la créature, nous ne marchons pas devant Dieu, mais devant la créature. Il est de la dernière importance pour nous que nous sachions devant qui nous marchons et quel est l'objet que nous poursuivons. Qu'avons-nous en vue et sur qui nous reposons-nous dans ce moment même? Dieu remplit-il notre avenir tout entier? Les hommes et les circonstances n'y entrent-ils pour rien? La créature n'y a-t-elle point de place? Le seul moyen de s'élever au-dessus du monde, c'est de marcher par la foi, parce que la foi remplit la scène si complètement de Dieu qu'il ne reste plus de place pour la créature et pour le monde. Si Dieu remplit tout le champ de ma vue, tout autre objet disparaît et je puis dire avec le psalmiste, mets-toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. Psaume 62, verset 5-6. La nature parle autrement, non qu'elle veuille exclure Dieu entièrement, à moins qu'elle ne soit sous l'influence directe d'un scepticisme audacieux et blasphémateur, mais son regard et son attente seront toujours partagés. Il est bon d'observer que Dieu ne partage pas plus sa gloire avec la créature quant à ce qui concerne les détails de notre vie actuelle de tous les jours que pour ce qui concerne le salut. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il faut que ce soit lui réellement et lui seul. Il ne suffit pas que nous dépendions de Dieu en parole, tandis que de fait notre cœur se repose sur la créature. Dieu mettra tout en lumière, il éprouvera le cœur et placera la foi dans la fournaise. Marche devant ma face et sois parfait. Tel est le chemin qui conduit au vrai but. Quand, par la grâce, l'âme cesse de s'attendre à la créature, alors, et alors seulement, elle est dans les dispositions voulues pour que Dieu puisse agir. Et quand Dieu agit, tout va bien. Il ne laisse rien inachevé. Il règle parfaitement tout ce qui concerne ceux qui mettent en lui leur confiance. Quand la souveraine sagesse, la toute-puissance et l'amour infini agissent ensemble, le cœur croyant peut jouir d'un doux repos. À moins que nous ne puissions trouver quelques circonstances trop grandes ou trop petites pour le Dieu Tout-Puissant, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter de quoi que ce soit. Et c'est là une vérité puissante et bien propre à placer tous ceux qui croient dans la bienheureuse position dans laquelle nous trouvons Abraham dans ce chapitre. Dès que Dieu lui eut positivement dit « Abandonne-moi tout et je pourvoirai à tout, au-delà de tes plus ambitieux désirs et de tes plus chères espérances », la semence, l'héritage et tout ce qui en découle sont parfaitement et éternellement assurés selon l'alliance du Dieu Tout-Puissant. Alors Abraham tomba sur sa face, verset 3. Bienheureuse position, la seule qui, devant le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, possesseur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, convienne à un pécheur faible et dénué et inutile. Et Dieu parla avec lui. C'est quand l'homme est dans la poussière que Dieu peut lui parler en grâce. La position que prend ici Abraham est l'expression de l'abaissement complet en la présence de Dieu. Il se tient devant Dieu dans le sentiment de sa faiblesse et de son néant, et cet abaissement est le sûr précurseur de la révélation de Dieu lui-même à l'âme. C'est quand la créature se tient ainsi devant Dieu que Dieu peut se montrer tel qu'il est dans toute la gloire de sa personne. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il peut se révéler et permettre à l'homme d'adorer en présence de cette révélation, mais jusqu'à ce que l'homme prête la place qui lui convient, Dieu ne peut pas déployer son caractère. Quelle différence entre les positions d'Abraham dans ces deux chapitres. Dans l'un, il a la nature devant lui, dans l'autre, il est dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Là, il agissait, ici, il adore. Là, il avait recours à ses propres combinaisons et à celles de Sarah. Ici, il s'abandonne avec tout ce qu'il concerne, son présent et son avenir, dans les mains de Dieu, et il lui permet d'agir en lui, pour lui et par lui. C'est pourquoi Dieu peut dire « Je te ferai, je t'établirai, je te donnerai, je te bénirai ». En un mot, Dieu seul et son œuvre sont en cause, et là est le vrai repos du pauvre cœur qui a appris à se connaître ainsi. L'alliance de la circoncision est maintenant introduite. Il faut que chacun des membres de la famille de la foi, sans exception aucune, porte dans son corps le sceau de son alliance. On ne manquera point de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera en votre chair comme alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis qui n'aura point été circoncis en la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples. Il a violé mon alliance. Verset 9-14. Le chapitre 4 de l'Épître aux Romains nous apprend que la circoncision était le sceau de la justice de la foi. Verset 9. Et Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Étant ainsi tenu pour juste, Dieu met son sceau sur lui. Le sceau par lequel maintenant le croyant est scellé n'est pas comme alors une marque en la chair, mais ce Saint-Esprit de la promesse par lequel nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, Éphésiens 4 et 30. Ceci est fondé sur l'éternelle relation du croyant avec Christ et sur sa parfaite identification avec lui dans la mort et la résurrection, ainsi qu'il est écrit, Colossiens 2, verset 10-13, « Et vous êtes accompli en lui qui est le chef de toute principauté et autorité, en qui aussi vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'a pas été faite de main dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ, étant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. » Ce magnifique passage nous apprend ce que la circoncision représentait réellement. Tout croyant est de la circoncision en vertu de son association vivante avec celui qui, par sa croix, a pour toujours aboli tout ce qui s'opposait à la parfaite justification de son Église. Il n'y a pas eu une seule tache de péché sur la conscience des siens, ni un principe de péché dans leur nature, dont Christ n'ait porté le jugement sur la croix. Et maintenant, les croyants sont envisagés comme étant morts avec Christ, comme ayant été couchés dans la tombe avec lui, et ayant été ressuscités avec lui, et rendu agréable en lui. Leurs péchés, leurs iniquités, leurs transgressions, leur inimitié, leur incirconcision ayant été complètement ôtés par la croix. La sentence de mort est inscrite sur la chair, mais le croyant possède une vie nouvelle unie au chef ressuscité dans la gloire. Dans le passage que nous venons de citer, l'apôtre nous apprend que l'Église est sortie vivifiée de la tombe de Christ. Et de plus, que le pardon des péchés de l'Église est aussi complet et aussi entièrement l'œuvre de Dieu que l'a été la résurrection de Christ d'entre les morts. Or, nous savons que la résurrection de Christ a été le résultat de l'intervention de l'excellente grandeur de la force de Dieu ou selon l'opération de la puissance de sa force. Voyez Éphésiens 1, verset 19. Quelle expression énergique pour dire la grandeur et la gloire de la rédemption, aussi bien que le solide fondement sur lequel elle repose. Quel repos, quel parfait repos le cœur et la conscience propitient. Quelle délivrance complète pour une âme fatiguée et chargée. Tous nos péchés sont ensevelis dans la tombe de Christ. Pas un seul, même le plus petit, n'est resté en dehors. Dieu a fait cela pour nous. Tout ce que son œil pénétrant a pu découvrir en nous, il l'a placé sur la tête de Christ lorsqu'il était attaché à la croix. Ce fut alors et sur cette croix que Dieu jugea Christ au lieu de nous juger pour toujours en nous plongeant dans les peines de l'enfer. Tels sont les précieux fruits des conseils merveilleux, insondables et éternels de l'amour rédempteur. Nous sommes scellés, non pas d'un sceau extérieur en la chair, mais du Saint-Esprit. Toute la famille de la foi est scellée de ce sceau. La valeur et l'invariable efficace du sang de Christ sont telles que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité éternelle, peut venir faire sa demeure dans chacun de ceux qui ont mis en elle leur confiance. Que reste-t-il donc à faire à ceux qui savent ces choses, sinon de demeurer fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur? Ô Seigneur, qu'il en soit ainsi par la grâce de ton Saint-Esprit.